Entretien Choc FM 105.1 avec Magda Yanjechak.
Nous avons aujourd'hui le plaisir d'échanger avec deux acteurs clés du Forum Canada-Afrique Cap Bleu 2025. Un événement majeur qui réunira des leaders, des représentants gouvernementaux, des investisseurs et des experts venus d'Afrique et du Canada. Pendant 3 jours, ce forum favorise des collaborations stratégiques et des échanges de haut niveau autour de secteurs clés pour une croissance durable, notamment l'économie bleue, le commerce, les infrastructures, l'innovation et l'éducation. Nous accueillons aujourd'hui Madame Isabelle Doucet, directrice de la francophonie internationale et multilatérale, représentante de la première ministre du Nouveau-Brunswick à l'Organisation internationale de la francophonie, et Monsieur Yaï Pekassa, président du Pont Bridge Canada et président du Forum Canada-Afrique Cap Bleu 2025. Merci d'être sur Choc FM 105.1.
Merci.
Merci.
Nous aurions souhaité savoir, pour commencer, comment est né le Forum Cap Bleu et quelles étaient vos ambitions initiales?
Ben, écoutez, le Forum Cap Bleu, justement, c'est un travail, justement, de longue haleine, qui, depuis 2 ans, justement, a réuni, justement, des expertises variées, à la fois expertise au niveau portuaire et du commerce maritime, mais aussi, justement, des expertises, justement, diplomatiques qui, ensemble, on réfléchit à l'urgence de pouvoir avoir une plateforme qui permettrait donc de ramener d'un bord les opérateurs économiques africains d'un bord et de l'autre côté justement les opérateurs économiques canadiens dans ce qui nous sépare et ce qui nous unit le mieux, l'océan Atlantique. Il est important que oui, c'est un forum sur l'industrie portuaire et l'économie bleue, mais ce n'est pas un forum sur les ports. C'est un forum sur l'industrie portuaire, ce qui fait qu'effectivement, quand on parle de l'industrie portuaire, on s'intéresse vraiment à ce qui fait la différence justement dans le développement commercial. On s'intéresse aux importateurs, on s'intéresse aux exportateurs, on s'intéresse à ce qui est vendu et acheté de l'autre côté de l'Atlantique. Donc ici, on voit le port justement comme étant un pôle économique, un agrégateur économique qui rejoint plusieurs mondes au même moment, les logisticiens, les transporteurs, les armateurs. C'est en cela qu'on a décidé justement d'y aller sur un forum sur l'industrie portuaire et l'économie bleue parce que naturellement, la question de la décarbonation du transport maritime est quelque chose qui est extrêmement important aujourd'hui et de plus en plus de ports commencent à nourrir l'idée aussi justement de l'éco-port, ce qui est sous une expertise que le Canada développe et le Nouveau-Brunswick en matière de décarbonation ou encore de verdification de l'économie développe plutôt très bien.
Ça semble être un sujet relativement important dans le cadre de ce premier forum, justement le fait de travailler sur l'économie bleue, mais l'impact négatif d'un point de vue climat et pollution, justement lié au port. Comment vous y avez intégré dans cette première édition?
Excusez-moi, comment est-ce que j'ai intégré quoi?
Toute cette réflexion autour justement de l'impact notamment des gaz à effet de serre sur l'économie bleue.
Ben, je pense justement qu'il faut voir l'économie de demain va être justement une économie complètement décarbonisée. Mais à côté de tout ça, c'est-à-dire qu'on peut pas. C'est une vision en tout cas prospectiviste. C'est-à-dire que quand il y a un événement majeur qui a décidé aussi d'accélérer l'arrivée justement de ce forum-là, c'est l'arrivée de la nouvelle administration américaine qui, avec justement ces décisions tarifaires, a créé complètement un vent de panique qui a stressé complètement l'écosystème entrepreneurial et des affaires justement au Canada. Donc, et quand on voit quand on voit justement la perspective justement de l'Afrique, le positionnement de l'Afrique sur la géoéconomie commerciale mondiale aujourd'hui, on se dit qu'il vaudrait mieux justement que le Canada ait des lunettes différentes lorsque ça perçoit l'Afrique. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Le Canada, nous pensons que le Canada doit être à la table et ne doit pas adopter une démarche qui est contraire à tous les autres membres du G7.
Et pour vous, Madame Doucet, justement, par rapport à ce que vient de dire Monsieur Yaï Pekassa, quel est votre point de vue?
Ouais, pour le gouvernement du Nouveau-Brunswick, nous avons lancé en mai dernier une stratégie pour l'Afrique francophone. Et dans notre stratégie, nous avons 4 piliers à la base, l'éducation, la formation, le recrutement de main-d'œuvre et les échanges économiques via la diplomatie. Donc, lorsqu'on parle du continent africain, il y a encore beaucoup de perceptions. Et lorsque Pont Bridge Canada nous a approchés pour nous parler du forum qu'ils souhaitaient organiser dans notre province, on s'est dit, mais quelle bonne idée de asseoir ensemble des gens de l'Afrique, du Nouveau-Brunswick, de d'autres provinces canadiennes pour justement parler des opportunités. L'environnement est un sujet d'actualité pour tout le monde. Donc, on est vraiment heureux que on va accueillir ce forum dans notre province.
Pour vous, qu'est-ce que ce forum peut vous apporter, peut apporter au Canada?
Mais pour nous, c'est la discussion de comment est-ce qu'on va procéder si on veut plus d'échanges économiques entre le Canada et l'Afrique. Aujourd'hui, les échanges sont relativement faibles. Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ça, mais notre volonté de diversifier les marchés aujourd'hui, ben, nous pousse à regarder à toutes les opportunités. Puis l'Afrique a l'avantage que on parle le français et l'anglais, tout comme au Canada. Donc ça ouvre des portes encore plus faciles. On fait partie de l'Organisation internationale de la francophonie, c'est également un point important. Donc rassembler tous ces gens-là chez nous, c'est de se dire il y a des opportunités, il y a des entrepreneurs qui veulent faire des échanges, il y a une diaspora africaine de plus en plus importante également dans nos provinces canadiennes et au Nouveau-Brunswick. Notre population a grandi de 100 000 habitants dans les 5 dernières années. C'est énorme pour nous. Un grand parti, c'est l'immigration francophone, puis l'immigration francophone provient en grande partie de l'Afrique. Donc, c'est vouloir brasser ces idées-là, tout le monde, avec les gens sur place, avec les gens qui vont venir pour voir qu'est-ce qui est possible dans quel secteur, puis l'économie bleue en fait partie.
Et vous avez le sentiment que des initiatives comme le Forum Cap Bleu vous apportent déjà à la préparation, et puis j'imagine après, pendant et à la suite de ce forum, des nouvelles pistes concrètes de réflexion pour le gouvernement?
C'est l'objectif, évidemment. On veut asseoir des gens pour discuter. Il y a le thème de l'éducation qui va faire partie du forum. Il y a le thème de la formation également. On sait que la jeunesse d'aujourd'hui et de demain est en Afrique. 65% de la population a moins de 25 ans. C'est totalement l'opposé au Canada. Donc, ce forum, c'est le début. C'est le premier. Évidemment, on souhaite qu'il y en ait dans les deux sens éventuellement, mais c'est surtout aussi le but de sensibiliser les entreprises du Nouveau-Brunswick, entre autres, pour discuter, pour voir ce qui est possible avec ce forum.
Et justement, vous venez de dire que ce forum, c'était le premier. Yaï, est-ce que vous pouvez me dire, vous avez choisi comme thème pour cette année, diversifier maintenant. C'est un thème qui évoque l'urgence de nouvelles approches économiques. J'aurais souhaité savoir ce que signifie concrètement ce thème pour les participants canadiens et africains.
Ben, ça signifie tout. C'est un thème qui est tout aussi actuel qu'urgent. Je parlais tout à fait justement tout à l'heure de l'arrivée justement de la nouvelle administration américaine et tout ce qui s'en est suivi justement comme mesure qui stresse l'écosystème, qui stresse complètement l'écosystème des affaires au Canada. Écoutez, je vais vous faire un dessin. L'Afrique, c'est à 6 jours, de 6 à 7 jours de navigation des côtes canadiennes. Ça veut dire que l'Afrique est plus proche de l'Europe, le Canada, l'Afrique est plus proche du Canada que l'Europe ne l'est. Pour aller au Havre, c'est 9 jours de navigation. Pour aller à Hamburg, c'est 9 jours. Mais l'Afrique est à 7 jours de navigation. C'est pas tout, mais l'Afrique, c'est surtout 1,4 milliard de consommateurs. C'est surtout un marché qui équivaut à 3,4 trillions de dollars. Là où le Canada aujourd'hui a une offensive qui est très sérieuse sur l'Asie du Sud-Est. L'Asie du Sud-Est est un marché de 5 trillions de dollars. L'Afrique est un marché de 3,4 trillions de dollars. Donc, la différence n'est pas importante. Et quand on voit justement les chiffres de la Banque mondiale, la totalité des dépenses des Africains en 2015 était à 4 trillions de dollars. Et les mêmes dépenses justement sont projetées à l'horizon 2030 à 6 trillions de dollars, soit 1 trillion de dollars au-dessus justement de l'Asie-Pacifique. Si tu es une entreprise canadienne et que tu penses justement que tu veux assurer la survie de ton entreprise à partir de 2050 et jusqu'à la fin du siècle, tu es mieux d'être plutôt en Afrique, dans un environnement où le Canada est très bien perçu, a un capital diplomatique extrêmement important et où l'expertise et le savoir-faire canadien est valorisé par rapport à d'autres. Le Canada aujourd'hui prospecte énormément en Inde, mais l'Inde prospecte beaucoup en Afrique. Le Canada prospecte énormément en Chine, mais la Chine prospecte extrêmement fort sur le continent. Donc, là où le Canada est en train de prendre la direction pour s'en aller, tous ces gens-là prennent la direction opposée pour venir en Afrique. Il y a quelque chose justement dans cette démarche-là qui doit pouvoir interroger justement les gens. Alors, diversifier maintenant, c'est de dire, on a une économie qui est extrêmement imbriquée à celle des États-Unis, ce qui n'est pas une bonne chose, c'est un gage de stabilité. Alors, ce qu'on pense justement, c'est qu'on ne doit pas rompre et de toutes les façons, ça n'arrivera pas. Mais en revanche, il est extrêmement important de dévier un peu le curseur pour, d'un point de vue stratégique, être moins dépendant. Et je le dis encore, l'Afrique est à 6 jours de navigation. C'est-à-dire qu'à 6 jours de navigation des côtes justement du Canada, on a un marché de 1,4 milliard, 4 milliards justement de consommateurs qui va valoir 6 trillions de dollars en termes de dépenses communes en 2030.
Et qu'est-ce qui, selon vous, explique que, malgré tous ces aspects, les partenariats économiques ne soient pas plus développés à l'heure actuelle?
Ben, écoutez, j'aimerais être, c'est une question justement, j'aimerais être dans la question, dans le secret des rois, pour savoir ce qui explique ça. Mais de toute évidence, l'Afrique souffre certainement justement, souffre d'une réputation qui la précède, mais qui est totalement erronée aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avec des lunettes justement d'une Afrique qui a besoin d'assistance et de tout ça, le Canada dépense beaucoup en Afrique sur l'aide au développement. À mon avis, c'est bien, mais en fait, c'est pas payant. Moi, je vais vous dire quelque chose. Lorsque je vais à Dakar pour une conférence, j'entre dans le centre justement de conférence à la CICAD. C'est le fruit d'un partenariat avec la Turquie. Lorsque je suis à Lagos et que je prends le métro de Lagos, c'est le fruit d'un partenariat justement avec la Chine. Lorsque je suis au Cameroun et que je traverse le pont qui me relie le Cameroun et l'ouest du Cameroun, c'est le fruit d'une coopération avec la France. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que la présence justement de ces autres puissances membres du G7 sur le terrain est perceptible. On le voit. On voit comment justement les choses se passent. Mais le Canada investit beaucoup, mais l'enjeu, c'est que le problème, ce n'est pas, je sais pas si c'est un problème, ça dépend vraiment des gens qui idéalisent et qui pensent, et des perspectives qui ont, des stratégies qu'il y a derrière. C'est que on ne voit pas, il n'est pas visible. Et du coup, justement, on est dans un environnement comme ça. C'est-à-dire qu'on est dans une démarche où on dit partenariat, investissement sur les infrastructures qui est extrêmement important. Là, on peut le voir. Plutôt que d'avoir justement un investissement qui est malheureusement pas toujours visible. Je ne dis pas que ce n'est pas important, parce qu'au niveau, par exemple, le Canada investit beaucoup sur la femme, les droits des femmes, les droits de l'homme et tout ça. Je ne suis pas en train de minoriser ça, mais je vous dis simplement la perception, par exemple, que peut avoir une stratégie économique pensée, parce que le métro, par exemple, le métro du Nigeria, c'est construit par des entreprises chinoises. Parce que c'est la Chine. Les métros, ce sont des entreprises turques qui ont construit. Vous comprenez un peu, c'est-à-dire, on est dans un pays, dans une grande île de 30 millions de kilomètres carrés qui a des besoins justement en infrastructure. Là où il faut 1,3 milliard à soigner, à habiller, à éduquer, il faut que les positionnements stratégiques permettent d'avoir un impact direct qui est visible sur la population.
Et Isabelle Doucet, qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de dire Monsieur Yaye?
Je suis entièrement d'accord. Et ce qui est important de soulever, c'est que plusieurs pays africains maintenant commencent à avoir des plans d'attraction d'investissement pour les étrangers, ce qui n'a pas toujours été le cas dans les années passées. On pense au plan national de développement de la Côte d'Ivoire, Invest in Senegal, et j'en passe. Il y a plusieurs pays qui se sont stabiliser politiquement, puis je pense que ça, c'est le critère le plus important quand on veut faire des affaires, surtout pour des Canadiens, et ensuite d'avoir des lois qui protègent nos investissements. Donc, le fait que les pays maintenant commencent à mettre en place des plans, des lois, des associations pour aider justement le commerce entre nos deux territoires, mais ça vient solidifier la façon qu'on pourra à l'avenir faire des affaires avec le continent africain. Puis je pense que c'est ça que les Canadiens ont besoin d'entendre, puis d'être rassurés que si on décide de faire affaire dans certains pays africains, mais c'est possible. Et c'est rassurant de savoir qu'il y a des façons, des choses mises en place pour protéger les investissements.
Et quel est selon vous le premier sujet d'investissement qui serait pertinent pour le Canada en Afrique?
Pour le Canada, de façon générale, il y en a beaucoup. C'est certain qu'on parle beaucoup des minéraux critiques. On en a chez nous, il y en a beaucoup en Afrique. On a de l'expertise de mieux travailler avec les pays africains sur la gestion, sur l'exploitation. Ça, c'est une des pistes qui est connue. Tout le secteur de l'agroalimentaire, le continent africain est très riche en fruits. En noix de cajou, en cacao, en café, en plein de choses. Mais on le sait, ils nous le disent, ils sont pas très bons dans la transformation. Nous, on sait faire de la transformation de produits. Donc, comment est-ce qu'on peut trouver des partenariats gagnants-gagnants pour partager le savoir-faire canadien et développer certaines des industries davantage, les aider à passer à la prochaine étape de développement de certaines industries. C'est tous des exemples comme ça qu'on est en train d'explorer. Pour le Nouveau-Brunswick, évidemment, nous, on est une petite province, donc on est riche, nous aussi, en ressources forestières, la pêche, évidemment. Puis là, c'est pour ça que aussi le forum est beaucoup tourné autour de l'industrie de la pêche, parce que je pense qu'on va avoir des échanges très enrichissants avec les entreprises dans le secteur de la pêche d'ici et d'Afrique.
Dans les sujets qui seront abordés durant le forum, il y en a un particulièrement qui m'a interpellée, qui s'appelle Diplomatie des villes, coopération décentralisée et jumelage stratégique des villes portuaires. Dans la présentation de ce thème-là, vous expliquez que vous allez vous baser sur des partenariats réussis. Et du coup, j'aurais aimé que vous m'en disiez un peu plus à ce sujet-là.
Ben écoutez, je pense qu'aujourd'hui, le monde et le Canada avec ses 150 années de confédération est un véritable laboratoire de confédération. C'est-à-dire qu'est un véritable laboratoire réussi des différents paliers de gouvernement qui fonctionnent plutôt très bien. Et c'est un peu comme si le Canada avait vu 150 ans avant la réalité de ce que la plupart des pays aujourd'hui ou encore la plupart des systèmes aujourd'hui voient, c'est-à-dire la Confédération. On est beaucoup plus dans une façon justement de voir le monde où les paliers de gouvernement aujourd'hui, par exemple en Afrique, on est dans un état où, notamment en Afrique francophone, où l'organisation, l'architecture gouvernementale sont des gouvernements unis décentralisés. C'est-à-dire que vous avez justement l'État central, vous avez les régions et vous avez justement les municipalités et tout ça qui sont autour. Mais sauf seulement que pendant très longtemps, justement, la plupart de ces pays-là, les municipalités n'avaient pas, c'était des créations, mais pas des coquilles vides, mais n'avaient pas vraiment, la décentralisation au sens propre n'était pas mise en place. Alors, quand on voit, par exemple, le Canada avec où le palier gouvernemental, municipal, provincial et fédéral, clairement bien établi, avec justement une certaine relative autonomie dans la gestion justement des affaires courantes, avec les zones de compétences qui sont clairement déterminées, définies, on se dit peut-être qu'il y a matière justement à prendre là-dedans. C'est là le premier point que je voulais faire, c'est-à-dire que c'est dans cette question justement de partage d'expérience, renforcement de capacité et développement justement de. Maintenant, sur la question de la diplomatie des villes, c'est que les traités qui sont signés au niveau international, vous savez qui sont les premiers paliers de gouvernement à faire face à ces enjeux? Les villes. Lorsqu'on signe une entente justement à la COP21 sur la question du changement climatique, c'est la ville de Niamey qui vit d'abord le réchauffement climatique d'abord en premier. C'est d'abord la ville de Cotonou qui vit d'abord le facteur de rehaussement justement du niveau de la mer et de l'érosion côtière. Donc c'est avant tout d'abord une affaire des municipalités. Et les villes de plus en plus justement veulent se positionner et avoir une voix qui porte. C'est pour ça qu'on parle justement de la diplomatie des villes. En plus de cela, c'est le caractère parfois caractère justement parfois historique de certaines villes qui existent. Tout le monde connaît Paris aujourd'hui comme étant par exemple la capitale de l'amour et peut-être les gens connaissent d'autres affaires comme étant la capitale justement historique et bien des affaires. Donc c'est aussi une question de branding. Mais là, dans l'aspect justement des villes portuaires, en Afrique, les villes portuaires et même au Canada, c'est-à-dire que la ville a trop grandi et le port ne peut plus aller au-delà. Il y a un problème d'aménagement urbain du port dans la ville et d'aménagement urbain de la ville dans le port. Parce que le port à Abidjan, par exemple, est un vrai laboratoire. Le port d'Abidjan est étalé sur trois communes différentes. Abobo, Trècheville et Koumassi. Donc, vous voyez effectivement que le port d'Abidjan intervient dans trois gouvernements locaux à lui seul. Pourquoi? Parce que le port grandit trop et la ville, les gens ont construit et ont occupé énormément autour du port où le port ne peut plus grandir plus que ça. Donc, il y a ces enjeux-là que les villes partagent, que les villes portuaires partagent. Et qui durant justement le forum vont être mises en place. On est très heureux, par exemple, d'accueillir deux maires de Cotonou qui vont dans une perspective de jumelage et de partage être jumelés à d'autres municipalités du Nouveau-Brunswick. On est extrêmement heureux de pouvoir officialiser cela lors du forum. Ça fait partie justement là justement des aspects concrets, directs de partenariat qui vont être mis en exergue pendant le forum.
Merci beaucoup. On va bientôt terminer cette entrevue. J'aurais souhaité poser une question ouverte pour tous les deux. Est-ce que vous pourriez me dire, pour vous, quel message clé vous souhaitez que l'on retienne de ce forum 2025?
Le message clé, c'est de dire, c'est maintenant le temps où il faut discuter des opportunités entre le Canada et le continent africain. C'est maintenant parce que la jeunesse d'aujourd'hui a beaucoup d'idées. Ils veulent avancer dans leur pays et nous, on va avoir besoin de cette jeunesse-là également. Donc, le fait d'avoir autour d'une table pendant 2, 3 jours au Nouveau-Brunswick, des gens des deux continents qui vont échanger sur toutes ces opportunités possibles. Moi, ça donne une lueur d'espoir qu'on va voir des pistes qui vont se dessiner au fur et à mesure, que ce soit dans le secteur de la pêche, des ports ou de l'économie de façon générale. Pour moi, le message clé, c'est que c'est maintenant qu'il faut commencer à avoir la discussion et c'est maintenant que le Canada doit se positionner pour être présent, avec les échanges économiques du futur, avec l'Afrique.
Je dirais que, c'est-à-dire que, et pour terminer ça, c'est comme, je voulais commencer cette dernière question en louant justement le leadership du Nouveau-Brunswick sur cette question-là. C'est-à-dire que c'est la première, la seule actuellement province canadienne qui a une stratégie claire sur, avec ses relations justement avec l'Afrique. Il faut y croire pour y aller vers là. Et ça, c'est une question justement de leadership qu'il faut évidemment mettre en exergue. Qu'est-ce qu'on va retenir justement de ce forum? En réalité, il faut essentiellement voir le courage là de ramener autour de la table, comme cela ne s'est probablement avec dans une envergure complètement inédite des acteurs politiques, des acteurs économiques, des acteurs diplomatiques africains qui viennent au Canada, qui rencontrent justement les acteurs canadiens pour discuter justement de l'avenir du commerce transatlantique. Ce qu'il faudrait retenir justement de ce forum-là, c'est que la redéfinition du commerce transatlantique entre le Canada et un marché de 1,4 milliard justement de consommateurs aurait commencé justement au Nouveau-Brunswick. Il faudrait que ça reste justement dans les annales. Et il faudrait que ça se soit retenu. Il faudrait aussi que les gens comprennent que c'est maintenant que ça se passe. Parce que tant que vous prospectez chez les autres, eux, ils prospectent en Afrique. Pourquoi pas? Il y a quelque chose qui est là-dedans qui est important. Et ici, on est dans une configuration différente. Si je me lève un matin et que je dis à une entreprise canadienne, écoute, allons faire de la prospection en Afrique, va certainement me dire, oh mon Dieu. Mais en par contre, c'est différent parce que c'est les gens, les opérateurs économiques africains qui arrivent ici. Et là, tu n'as pas besoin justement de prendre un billet d'avion pour te rendre en Afrique. Tu es capable de prospecter sur place et à ce moment-là, d'avoir une meilleure visibilité sur ce qui t'intéresse, par exemple, pour la suite.
Merci beaucoup. J'espère que ce message sera en tout cas transmis au plus grand nombre et que nos auditeurs l'entendront également. Pour rappel, donc le Forum Cap Bleu 2025 aura lieu du 11 au 13 novembre 2025 à l'hôtel Delta Beaujour à Moncton, au Nouveau-Brunswick. C'était une entrevue de Magda Jędrzejczak pour l'initiative de journalisme local à Toronto.